merci de nous rappeler. Ciao.
Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo.
La chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Radio Libertaire 89.4, c'est la radio de la Fédération anarchiste. Ce sont les chroniques syndicales.
Et
La philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Donc une coproduction.
Une coproduction. Donc on se retrouve mensuellement quand il n'y a pas des trous. Et puis là, on vient de vous passer un petit morceau pour présenter un peu notre invité. Alors quand je dis pour présenter, c'est pas qu'elle est si vieille et tout, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je
pas elle ne s'appelle pas Colette Renard.
Non, elle ne s'appelle pas Colette Renard, donc ça va, c'est bon. Elle s'appelle Sarah Almatari, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Puis on va parler un peu d'argot. Alors, pas forcément en argot, parce que c'est pas facile, l'argot, on va dire. J'ai essayé d'apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, j'ai jamais réussi. L'argot, je crois que j'arriverai encore moins. Donc, à toi, c'est quoi cette chanson ?
Salut à tous. c'est la détente, samedi matin, sur Radio Libertaire. On commence avec du Colette Renard. C'est chaud. Je pensais que je venais pour parler la langue verte, mais apparemment, Bobiche, il avait une autre langue en tête. Et ça ne m'étonne pas trop de lui, à vrai dire.
Mais ce n'est pas la langue de bois, c'est déjà ça.
Non, c'est pas la langue. Elle est tout à fait charnelle, cette langue. Et ça me fait penser qu'en fait, l'argot a été vraiment un des réservoirs premiers du lexique érotique et même pornographique, et que Alfred Delvaux, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, qui est l'auteur d'un dictionnaire d'argot, dictionnaire de langue verte, est aussi l'auteur d'un dictionnaire de langue érotique moderne dans les années 1864 et 1866 pour son dictionnaire d'argot. C'est deux enquêtes qu'il a menées conjointement, parce que évidemment, pour aller chercher ces mots d'argot, il est allé dans les milieux de la prostitution, de la bohème, des filles, etc.
Et il fréquentait les Apaches aussi ?
Alors, il fréquentait, lui, évidemment, je dirais presque en sociologue ou en anthropologue, il descendait dans la rue pour aller dans, justement, ces milieux qu'on jugeait interlopes à l'époque et aller collectionner, récolter un certain nombre de mots.
Et là, bon, on voit, ce sont des mots qui sont très imagés. Ça, c'est si personne n'a compris la chanson, il faut la réécouter, parce que c'est bourré d'images et c'est pas difficile. Mais c'est pas si facile que ça, l'argot. Alors d'abord, est-ce que l'argot, c'est fixe ?
Ouais, et puis ça date de quand ?
Alors, ça date de quand ? Les premières attestations littéraires, disons, fixées sur support écrit, datent au moins du XIVe siècle. Évidemment, peut-être que l'argot était pratiqué avant, ou en tout cas des formes de langage crypté ou cryptique, puisque ça, c'est la vocation première de l'argot. Il faut savoir que l'argot est très très difficile à définir, hein. Même les linguistes purs et durs, ce que je ne suis pas, n'arrivent pas à définir précisément ce qu'est l'argot. Même le mot argot a plusieurs sens. Ça peut désigner en fait une variété linguistique. Attention, l'argot n'est pas une langue. Au sens propre, c'est plutôt ce qu'on appellerait un greffon. Alors j'expliquerai après ce que ça veut dire, mais c'est que l'argot est essentiellement lexical, c'est essentiellement du vocabulaire. Il n'y a pas de grammaire argotique à proprement parler, sauf dans de très très rares cas, en tout cas pas en français. Donc ce qui change, ce sont les mots. Ce qui est intéressant, parce que du coup, ça permet quand même de garder une structure qui reste compréhensible. Donc le langage est crypté, mais il n'est pas complètement incompréhensible.
C'est-à-dire qu'on garde la syntaxe et on modifie le vocabulaire, quoi.
Exactement, on garde la syntaxe, on modifie le vocabulaire.
Il y a le même champ derrière, quoi.
Bah, le champ, ça dépend, parce que après, t'as dit... En plus, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans l'argot, il n'y a pas simplement les mots, il y a aussi des questions de débit, de prosodie qui sont très importantes. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir, par exemple, dire qu'il existe un langage des cités. Moi, je crois pas trop, mais souvent, c'est tout simplement du français, mais qui est dit sur des fréquences et à une vitesse qui n'est pas la même que celle du français, on va dire, standard d'aujourd'hui. Attention, ce français standard, il évolue aussi beaucoup. Il n'y a pas que l'argot qui évolue. Quand on va sur Internet, qu'on écoute en fait des reportages qui sont faits dans les années 50-60 ou au moment de mai 68, on voit que le débit, la prosodie n'est pas du tout le même, beaucoup plus lent qu'aujourd'hui, par exemple. Donc, le français standard évolue et l'argot aussi évolue beaucoup. Il a une obsolescence qui est rapide. Ce qui fait que, c'est aussi parce que sa fonction était d'être un langage cryptique à la base. Donc, dès que la police, en gros, ou dès que les pouvoirs publics comprennent, on change de mot pour préserver un petit peu cette fonction cryptique. En même temps, on retrouve des mots très 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 anciens dans l'argot d'aujourd'hui. Parfois même des mots qui datent du Moyen-Âge. Ou alors des mots qui sont plus récents mais qui perdurent dans l'argot. Moi je pense à un adjectif que j'aime particulièrement, c'est « batte ». Voilà, dire de quelqu'un qu'il est batte. Voilà, on disait beaucoup ça, moi je suis du Havre, on disait beaucoup ça au Havre dans les années 80-90. Et c'est un mot qu'on retrouve dans les années 1930 et même avant.
Ouais. Batman même.
Ouais, d'accord. Alors, de ce que j'ai compris, il y a quand même deux argots assez différents. Celui qui était professionnel et celui qui est justement pour pas être compris. Alors je sais pas, il y a des moments, je pense que c'est pas seulement pour pas être compris, c'est on est entre nous, on crée un espèce de vocabulaire. Parce que je me posais aussi la question si on créait pas aussi des vocabulaires, par exemple, familiaux. C'est-à-dire, dans toutes les familles que j'ai vues, il y a des fois des allusions, mais des allusions avec du vocabulaire spécifique et tout. Bah, qui sont pas de l'argot, ou sinon c'est un argot maison, quoi. Je veux dire, c'est... Alors, Tu peux nous refaire vraiment clairement la différence entre justement les...
Oui, si tu veux, l'argot, c'est un langage codé, au sens le plus large du terme. Donc, ça désigne à la fois des variantes, en fait, linguistiques propres à un groupe. Ce groupe peut être un groupe social. Ça peut être, par exemple, le milieu, avec un M majuscule. Mais ça peut être aussi un groupe socio-professionnel. Et parfois, les deux se rencontrent. On appelle plus souvent jargon ces langages techniques qui sont propres au milieu des professionnels. Alors, ça peut être, je sais pas, le jargon des aviateurs ou le jargon des carabins, les étudiants en médecine. Ça peut être aussi le jargon des académiciens, hein, parce qu'il existe aussi. Mais quand on parle, par exemple, du jargon des prostituées, on voit là combien est poreux la frontière entre ce que nous on appelle l'argot, hein, ce langage cryptique, ce langage dit d'en bas, et puis le langage professionnel. Quant à ce que tu évoquais de la famille, ben oui, en fait, ça dit quelque chose sur le rapport affectif au langage et sur aussi les phénomènes de création. Alors, tous les phénomènes de création linguistique relèvent pas de l'argot. Mais tout de même, dans l'argot, il y a une créativité importante. On l'a vu tout à l'heure avec le langage imagé de Colette Renard. Il y a aussi un grand nombre de néologismes dans l'argot, c'est-à-dire de mots qui sont créés. Alors, ils ne sont pas toujours créés ex nihilo. Parfois, il y a une racine. Et à partir de cette racine, par exemple, on a des mots qui tournent autour, en argot autour des volatiles, où on va retrouver la racine orni qu'on a dans ornithorynque. Alors que dans le français standard, cette racine n'est pas si courante que ça.
Alors, je te propose qu'on écoute un argot professionnel, complètement professionnel, et je pense que tu vas le reconnaître.
Alors, Sébastien B. Alors, il faut la longe trappe pour l'AMD.
Ah non, pas sur
monsieur,
votre
compte. Monsieur, d'accord. Pas le même monsieur Nicolas, là.
Mais c'est Nick, oui. L'ombricaisse, attention, l'ombricaisse.
Oui, bon.
Non,
pas les chambesses, non.
Derrière ça, que l'IAB.
Ouais. D'accord. Alors, l'île Mangedem, qu'est-ce qu'on va aller faire?
Alors, tu dois retirer SEM ou l'Elbem ou. Hein?
Non, tu viens dans Genèse à la maison?
Ouais.
À la maison Nick?
Ouais, d'accord.
Hein? Ouais. Et puis on va leur dire ça de nos lames fiches.
Un petit casque. On va voir l'Ordem, Jeanne Bélu Taïbé.
Ouais. Hein? D'accord.
On a une longue troc.
Oui, bon. Non, la belle. Pas les chambres, non.
La maison que l'IAB.
Ouais. Hein? D'accord.
Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là, dans votre langue?
Là, ce qu'on
oui, qu'est-ce que vous étiez en train de dire?
Ben voilà, j'ai dit à monsieur, t'as vu, c'est toi qui parlais?
Ouais.
Il m'a demandé, c'est ce que t'as vu le monsieur? Alors j'ai dit non, il est pas méchant parce que des fois, il faut se méfier d'un client.
C'est ça. Alors, si je comprends bien ce langage, le louche et même, c'est une langue que vous parlez aussi pour qu'on ne vous comprenne pas.
Voilà, c'est pour que le client ne comprenne pas.
Oui, vous avez beaucoup de choses à dire que pour que le client ne comprenne pas, qu'est-ce que vous avez à cacher?
C'est-à-dire qu'on n'a rien à cacher, c'est-à-dire pour mieux servir le client, mieux souvent.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Pour que le client il vienne et il soit content quand il repart.
Oui.
Et qu'il ne vienne pas nous faire des reproches les années du jour à venir.
Et alors, où est-ce que vous avez appris à parler, vous, chez Ben?
Ça, c'est à force de passer dans les maisons. Et puis, il y a des anciens chefs qui parlaient l'argot muche. Alors, nous.
Mais ça a l'air d'être relativement facile parce que par exemple loucher en louchébem, ça se dit louchébem. Alors donc on renverse le mot, expliquez-moi comment ça fonctionne.
Alors voilà le louchébem ou argot des bouchers. Alors le louchébem se fabrique de la façon suivante. Le mot louchébem veut dire boucher. Vous prenez le mot boucher, vous retirez toujours d'un mot, la première lettre, si cette lettre est une consonne. Et cette consonne, vous allez la placer à la fin du mot. Alors, dans boucher, vous retirerez le R. On va mettre un accent. Et vous ajoutez, alors ce B du début, vous le placez à la fin, hein? Et vous placez toujours L. Alors, loucher, et puis un suffixe en M ou en OC, ou simplement en E. Par exemple, vous avez en douce. en douce, vous allez dire quelque chose en douce. Eh bien, ça donnera, vous retirez le D, vous le placez à la fin, vous mettez un L en loup. Ou en loose doc, ça veut dire en douce. Vous allez avoir le mot fou. Alors le mot fou est passé, le mot fou en louchébem est passé dans le langage courant grâce à Pierre Dac. Et Pierre Dac qui avait lancé le mot avant-guerre dans son journal L'Os Samoal. Alors fou, hein? Alors donc le F, O, U, n'est-ce pas? Alors vous allez le faire le mot en louchébem, de nouveau lou, et puis le F avec loufoque, par exemple.
Radio oui, donc Radio Libertaire, les chroniques syndicales,
la philanthropie
de l'ouvrier
charpentier,
voilà, avec Sarah
Almatari. Bon, ben voilà, on a fait le tour, on peut s'en aller.
Voilà. Et donc, on a entendu un extrait tout à fait intéressant que vous pourriez peut-être préciser, sachant qu'on disait tout à l'heure que l'argot permettait de faire société à certains. Mais c'est aussi une gymnastique intellectuelle tout à fait intéressante, que ce soit le javanais ou que ce soit l'argot débouché qu'on a entendu là, quoi.
Ouais, on a entendu une archive que j'aime particulièrement, qui est une archive INA de 1978. Je l'aime particulièrement pour deux raisons. D'abord parce qu'on entend les bruits de la boucherie. On entend
et ça
les...
tape, hein.
Ouais, on parce entend les avait, travailleurs il... qui tapent avec leur feuille du boucher. Et ça, je trouve ça assez génial. En plus, c'est une archive qui est une archive vidéo. Donc, si les auditeurs de Radio Libertaire veulent aller la retrouver sur le site de l'INA, ils verront que le journaliste est là avec un énorme magnétophone, avec les grosses bandes, en fait, d'avant. Et qu'en fait, il est un petit peu, comment dire, désarçonné par cette ambiance de boucherie, il essaie de faire son travail très sérieusement, et les deux bouchers essaient de lui traduire ce qu'ils viennent de dire. Alors pourquoi j'aime cette archive aussi, c'est parce que ça illustre exactement ce que nous disait Boubiche tout à l'heure, à savoir qu'il y a des mots d'argot assez anciens qui sont passés dans l'argot contemporain. Ici, l'exemple le plus caractéristique, c'est en loose dé, en douce. On nous donne aussi l'exemple du mot fou, qui en louchébem, en argot du boucher, donne loufoque, et qu'on retrouve aussi aujourd'hui sous sa forme verlan, ouf.
Sachant que ces mots d'argot sont passés dans le vernaculaire aujourd'hui, et c'est même plus de l'argot, quoi.
Ouais, c'est ça. Ils sont en loose-dé, je pense que ça reste encore une forme qui peut être considérée comme argotique, mais oui, on se rapproche de plus en plus d'un français qui est compris de tous et qui sera bientôt sans doute remplacé par d'autres formes plus cryptiques.
Mais je suis sûr que loufoque est dans le Robert aujourd'hui, non?
Oh bah c'est certainement. Il faudrait, j'ai pas vérifié, non, mais il faudrait vérifier. Mais c'est intéressant. En fait, ce que tu dis aussi, c'est quand le mot passe dans le dictionnaire que d'une certaine manière, il sort de l'argot. Ça, beaucoup d'observateurs l'ont constaté. L'argot reste de l'argot tant que d'une certaine manière, il est oral, il est dans sa forme orale. À partir du moment où il y a fixation, j'évoquais tout à l'heure les dictionnaires d'argot, ça devient autre chose. Et les écrivains ont beaucoup utilisé l'argot, mais c'est un argot qui est un construit d'une certaine manière et qui mettent à leur sauce. Alors peut-être je voulais vous raconter une petite blague, étant donné qu'on a commencé par Colette Renard. C'est une blague que j'ai racontée à mes étudiants qui se trouve dans un article de collègue. En fait, c'est dans une boucherie. Deux bouchers qui parlent entre eux en argot du boucher, et une cliente arrive et elle demande de la culotte de bœuf. Hein, c'est un morceau de bœuf. Et puis elle demande qu'on lui pèse, etc. Et elle dit qu'elle reviendra chercher le morceau de culotte plus tard. Et elle revient et elle se rend compte, en fait, elle s'est trompée de morceau. Elle ne veut pas de la culotte, elle veut de la langue de bœuf. Alors l'un des bouchers dit à son ouvrier, Monsieur Alain, enlevez la culotte de la dame et passez-lui la langue. Alors elle lui dit évidemment ça en argot du boucher. Preuve que l'argot est une manière peut-être de bien servir le client, comme le disent avec un peu de mauvaise foi d'ailleurs les deux bouchers de l'archivina, mais aussi parfois de se moquer gentiment des clients, de faire un peu d'humour sur son dos.
Oui, mais à partir du moment où c'est un vocabulaire qui est fermé, il est utilisé automatiquement par rapport à une différenciation des autres. L'incompréhension des autres fait qu'on a le droit de se marrer derrière. Ouais, c'est assez classique. Parce que même en langue traditionnelle, quand tu es dans un endroit où il y en a un qui parle que anglais, et rien d'autre, bon, il y a des tendances à se foutre un peu du monde, simplement parce que la langue est incomprise par l'autre.
Bah oui, ça crée des phénomènes de private joke, pour le dire en anglais, et de connivence interne au groupe. Alors, peut-être rappeler aussi que ça rendait des services plus techniques dans le milieu de la boucherie. Quand, par exemple, un client venait demander un morceau et qu'il n'y avait plus de ce morceau-là, eh ben, on leur fourguait un autre morceau et on disait discrètement à son collègue en argot, bon, bah, à la place de lui mettre, de l'entrecôte, mais lui du filet. Et puis, parfois, ça passait.
Oui, sachant que l'argot peut se perdre aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, les bouchers ne parlent plus l'oucheben.
Serait à vérifier. D'après ce que j'ai lu, en fait, il y a quand même des emplois résiduels. Et puis, on écoutera peut-être tout à l'heure, en fait, une chanson du groupe IAM où il y a tout un couplet en argot des bouchers. Donc, ça, en tout cas, ça reste fascinant, cet argot des bouchers. Ce qu'il faut dire aussi, c'était que c'est un argot qui était plutôt pratiqué dans les boucheries à Paris et dans la banlieue parisienne. Et notamment à l'époque des grands abattoirs, aux Halles, à la Villette, etc. Et pour les auditeurs de Radio Libertaire, ce sont des ouvrages qui sont aussi bien connus grâce aux travaux d'Éric Fournier, et notamment son magnifique livre La Cité du Sang, qui est édité par Libertalia et que je recommande plus que chaleureusement.
Alors, ça, c'était une langue liée à une profession. Alors, il faudrait faire la différence avec le vocabulaire professionnel, qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'informatique. On a un vocabulaire qui, parfois, on se parle, et il y a des gens autour qui ont des points d'interrogation et qui comprennent. Mais ce n'est pas la même chose, ça.
Bah ça, c'est du jargon, si tu veux, mais ça fait partie d'une définition extensive de ce que pourrait être l'argot.
Bah, ça finirait peut-être par être argotique, de toute façon, parce que même en informatique, il y a des termes qui sont déviés de leur sens premier pour dire autre chose, quoi.
Mais c'est vrai que c'est un vocabulaire différent, mais il est quand même imposé. C'est pas vraiment une déformation, parce que dans l'argot, il y a quand même beaucoup d'imagerie, il y a beaucoup de déformations, il y a des trucs techniques. Là, on a entendu le professeur qui expliquait comment on parlait le langage des bouchers et qui disait que c'était très, très facile. Moi, j'ai rien compris. J'ai vu la vidéo.
Non, c'est pas facile du tout.
Non, avec l'histoire du bec que tu mets à la fin, mais tu peux mettre... Parce que là, justement, dans ce qu'il expliquait, il y a plusieurs variations possibles. Ouais. Il met le B à la fin, mais après, on peut ajouter du hoc ou on peut ajouter quelque chose. Donc, c'est pas si clair, mais c'est des déformations.
C'est pas facile du tout, en réalité, mais il y a des effets, je dirais, de sociabilisation. C'est comme toute langue, en fait. La langue que tu parles, la langue que nous parlons, on l'a pas vraiment apprise, ou on l'a apprise par imprégnation, en fait. On n'a pas eu besoin de professeurs pour apprendre cette langue. Ben, je pense que pour l'argot, c'est pareil, en fait. Quand tu fréquentes un milieu, ça se colle à toi et tu l'intègres de manière assez naturelle. Et puis, pour en revenir à ce que tu disais, l'informatique, alors je réponds très spontanément, hein, parce qu'il faut dire que, voilà, on n'a pas échangé ensemble avant sur ces questions-là, mais il y a des mots, en fait, techniques du vocabulaire professionnel des informaticiens qui peuvent passer dans l'argot. Je pense à un mot comme reset. Tu vois, on peut imaginer deux jeunes qui se parlent et qui se disent voilà, je suis sorti avec une fille ou un garçon, il m'a saoulé, j'ai fait reset. Ou le vocabulaire des jeux vidéo. Tu peux dire, je sais pas, d'une situation qu'elle est game over. Voilà, tout le monde comprendra. Donc, il y a des effets de passage, en fait. Tout ça est très souple, très fluide.
Alors, il y a le jargon professionnel. Mais il est évident qu'avec tout vocabulaire, de toute façon, on peut créer un argot. C'est-à-dire, c'est tout. À partir du moment où il y a déformation, et puis beaucoup autour de l'image aussi, hein, c'est pas que de la technique.
Il y a beaucoup de l'image.
Ouais. On peut créer, mais c'est pas la même chose que le vocabulaire dit traditionnel et professionnel.
Même si, comme je te disais, il y a aussi chez les académiciens, et d'ailleurs les spécialistes... les spécialistes d'argot se moquent d'eux. Je crois que c'est Delvaux qui dit cette chose assez belle. Il dit, il n'y a pas de mots d'argot. Alors, c'est au 19e siècle, il y a très peu de mots d'argot dans le dictionnaire de l'académie, et pourtant, les académiciens ont leur propre langue argotique, leur propre jargon, et lui, il l'appelle la langue bleue, par opposition à la langue verte. Et peut-être en... référence au prétendu sang bleu qui courrait dans les veines des aristocrates.
Oui. Toujours est-il que cet argot, c'est aussi un enrichissement de la langue au cours des ans.
Indubitablement. Moi, je milite pour la pratique de l'argot. De toute façon, la langue, c'est l'usage. La langue, c'est jamais la norme. La langue, c'est l'usage. Et évidemment que l'argot est une source infinie d'enrichissement en permanente mutation et qui en plus est une forme, enfin qui favorise des ouvertures sur des emprunts à d'autres langues. Il y a dans l'argot courant énormément de mots de manouche et ça depuis des siècles et des siècles. Il y a évidemment des mots d'arabe, il y a des mots de wolof, il y a des mots d'anglais. On pourrait parler du slang qui est l'argot des pays anglo-saxons, etc., etc., etc. Et ça, ouais, ça me paraît magnifique.
Oui. Et ça peut même aussi enrichir la langue du point de vue de la poésie, quoi.
Oui, parce que, d'abord parce que c'est un formidable réservoir d'images, et ensuite parce que ça favorise toute une série de décrochages.
On va se mettre un petit morceau.
Sur Radio Libertaire 89.4.
Envoyez toutes les légions. Ne cessez l'assaut lorsque la cité sera prise. Tuez-les tous. Le monde des hommes va s'effondrer.
Impérial Asiatic Man. Salargo 1. Ouais. Nous voici dans le rap, loin des mercenaires. Bob de nard, mon cul est dans la loco. T'es coincé dans un hall de gare, on jacte comme on rappe comme on parle. On parle cet argot issu des marches, des trottoirs. Même ton fils blague comme nous. Tiens petit, viens donc à la table et joue au rami. On est au domino, bienvenue dans la famille. Tu captes tous ces mots minots, donc tout est plus clair. Quand je les débite au micro, dans ce game, un French comme vainqueur. Bordel, quand je prends la MIC, même New York cringe. On dispense rap sur pente vive, mash up les sounds en France avec le slang du centre-ville.
Ouais, CV.
Impérial Asiatic Man, cri de partout. 0204, une plaque dans le parcours. On prend des tournures, forgées dans la dynamique d'un dico. Parallèle pressé sur papier à dynamite. Mingya, Gajo, joue le sci-sci. Goofy serré, ton MC préféré, bye bye. Comme le dit Ness, demande-toi pourquoi je perdure. Pouze, je me trouve là où beaucoup d'MC sont perdus. Salargo, Argo, sale, MLS, White Slide. Salargo, Argo, sale, Flex, Cut, Fast, Fast. Salargo, Argo, sale, Michael, Cut, Freestyle. Salargo, Argo, sale, Flex, Cut, Grand Class.
Yo, tu captes gouffre, c'est pas grave, tu peux capter le flow, checker le saut, goûter le verbe, apprécier le savant mélange, mix d'épices, venu d'un peu partout, horizons différents, mais c'est ça qui renforce le tout. Pire que langage codifié, 10 000 textes édifiés pour faire kiffer les fous, dans un artifice de mots, légèrement coloré, à l'opposé des colonies. Ici le mélange est roi, des gueules va me contredire, si oui, mon vieux dégage de là l'immigration, elle enrichit ma culture, mon parler, mon rap, mes écrits le clame bien haut, à te percer les esprits. Je loue ma cité, sa mixité linguistique. Les traits d'un critique, mais le temps est notre allié. J'étends l'italien, chacun y met sa touche. Et l'édifice grandit en les dansant, plus imagé qu'une métaphore. Dans la face du front, meilleure des réponses. Les mains en soutien, mon arco gagne en puissance.
C'est bon les gars, on a compris là, ça tue ça. Mais t'as un chat, il faut nous faire quelque chose pour les vrais, tu vois. Un truc terrible. Un truc qui tue. Ah, ok, ok, écoute ça, hein. Les thèmes, l'on est classe, le low flame. Les clics que t'aimes, le thème, large femme. Là, le sem, algorème. Merche, chème, la pème, les low flame, prème. L'incomic, vive, casse, l'on sème. Et l'esterème, le lac, sereine. Du thème, les sèmes. L'arseille, mique, l'endème, l'hélène, vème. Lusca, chème, la loromique, kayam. Une lachinomique, à la vache, j'irème. L'endème, les lourds se caissent. Y'a des lofs, les trèmes, à la flérem. Du thème, le vème, l'udem, dur, pème. L'arche, caisse, à cache, l'endème, l'onodème. À la laisse, caisse, l'enlodème. Le thème, la fique en crème, elle te sème, l'intonormique, le plème, la tique en prème, les sèmes, l'orfème, les lévrèmes, la te sème, musique, mic, design, et thème, l'orfème, l'air, plème, on la natique, fème, les sèmes, le furomique, et c'est la lésion prême, l'ordre, le bème, les sèmes, l'orfème, j'en ai les lissons frêmes, à la peau, argot sale, MRS, wild style. Salargo, argot sale, flair, cut, pass, pass. Salargo, argot sale, Michael Bunn, freestyle. Salargo, argot sale, Black Club, grand classe.
Bring it back, come rewind.
Radio Libertaire,
89.4,
la radio de la Fédération anarchiste,
la philanthropie de l'ouvrier charpentier,
les chroniques syndicales,
avec
Sarah Almatari.
Et on a entendu
Ayam, merci beaucoup, j'adore Ayam, merci d'avoir passé ce morceau Salargo, qui fait partie de l'official mixtape de 2007, et où on a pu entendre une véritable prouesse d'Akhenaton avec ce dernier couplet en argot du boucher, en louchébem. Alors,
et on n'a absolument rien compris.
Bah, les auditeurs retrouveront, les auditeurs retrouveront la traduction sur le net, hein, mais c'est sans doute pas le plus important en fait. Ce qui me semble super important et beau, c'est la transition entre guillemets tradition et modernité, et entre ce qui est passé aujourd'hui, hein, dans, on va dire, une forme de culture savante, qui est l'argot des chansonniers du 19e siècle, l'argot d'Aristide Briand, de Jean Rectus, dont on parlera pas, peut-être l'auteur des Soliloques du pauvre, et puis le rap. Et en fait, il y a de très, 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 très nombreuses références chez les rappeurs à cette tradition des chansonniers argotiers du 19e et du 20e siècle. Et on a un certain nombre de rappeurs aujourd'hui qui, en plus de faire des clins d'œil et des dédicaces à cette tradition-là, interprètent des textes en argot du 19e et du 20e siècle. Et je pense en particulier aux textes de Jean Rectus, qui notamment a été rappé par un rappeur qui s'appelle Virus.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous présente toujours ces jeunes rappeurs comme peut-être pas des idiots du village,
des gens
incultes, quoi. Quand en fait, ils vont puiser dans le fond culturel, hexagonal, voire ailleurs, pour continuer à inventer des choses, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, moi, j'ai tendance à penser que l'inculture n'existe pas. En tout cas, il y a une forte porosité, une forte circulation entre ce qu'on appelle la culture lettrée et ce qu'on appelle là où les cultures populaires. En fait, le problème, il vient de la barrière entre les deux. Cette barrière qui est complètement artificielle, parce que la culture lettrée, c'est toujours nourri la culture populaire. Je veux dire, il suffit de prendre les pièces de Molière pour voir que, notamment dans tout ce qui est le vocabulaire des injures, le vocabulaire de la farce et de la comédie, bah, il y a énormément, énormément d'emprunts, en fait, à des vocables populaires et à des emplois populaires.
Il y a un décalage de temps. Parce que j'ai l'impression que le vocabulaire populaire, bah, il s'installe. Et de toute façon, comme il s'installe, on est obligé de le reconnaître à un moment. Oui. Puisque de toute façon, il est présent.
Je vais te dire, même socialement, il s'impose. Parce que c'est le plus nombreux. C'est celui qui est parlé par le plus de gens. Donc on ne peut pas en faire l'économie. Et cette barrière, en fait, elle est complètement artificielle entre culture savante et culture lettrée. Je pense qu'il faut l'abolir.
Oui, et puis c'est vraiment la possibilité de faire évoluer la langue. Parce que la langue évolue de fait. Sinon, on en serait peut-être encore, je ne sais pas à quelle langue.
Elle ne cesse d'évoluer.
Il y a aussi le fait que quelquefois le savoir savant va accepter des savoirs populaires au bout d'un certain temps. On parlait de Rictus, par exemple. Au début, c'est vraiment quelque chose de très populaire. Aujourd'hui, c'est quasiment dans toutes les anthologies de la poésie française.
C'est ce que je te disais. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait, qui soit récupéré par un certain nombre de rappeurs. Et je voudrais dire aussi un truc sur Rictus qu'on va certainement écouter tout de suite.
On va l'écouter.
Vous allez peut-être être surpris. En tout cas, les auditeurs de Radio Libertaire seront peut-être surpris de voir en fait qu'il a un phrasé qui est très monocorde, alors qu'on s'imagine spontanément que l'argot étant une langue expressive, il faut mettre un ton particulier. Même moi, quand je lis, c'est un peu ridicule, quand je lis des textes en argot à mes étudiants, je me rends compte que je change ma manière de parler, je change ma voix.
Oui, mais tu lis des textes.
Mais attends, mais je prends un ton gouailleur, complètement artificiel et ridicule, tu vois, comme s'il fallait parler comme ça dès que tu parles argot, tu vois. Et en fait, quand on écoute des enregistrements d'époque, parce qu'on a la chance d'en avoir quelques-uns de Rictus, on voit que c'était pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que l'argot a sa puissance propre, intrinsèque. Il est émotif, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter.
On va s'en écouter un morceau.
Volontiers.
Crève-cœur. Une fois j'ai cru que je me marguais par un matin d'amour et de mai. Il t'aime une nuit quand je rêvais ça, il t'aime une nuit, espion cette boue pour me gourer de la lance et de la boue dans l'encoignure d'une porte cochère. Hein, quelle santé, bon, je me marguais par un matin d'amour et de mai avec une jeunesse qui m'aimait, qui était pour moi tout seul, ma chère. Et ça se brassait à la campagne, loin des fortifs et loin d'ici, dans la salade et dans le Percy, chez un bistrot qui faisait ses magnes. Il y avait une tablée qui était grande et sur la nappe en damassé, du pain, du vin, des fleurs, de la viande, bref, un gueuleton à tout casser. Et autour des parents, de la sauce, des groins de mufou de bons copains, baba de me voir tourner rupin, content tout de même d'être à ma noce. Ma colombe, selon l'usage, se les roulait dans de la blancheur, et ses 15 berges et sa fraîcheur faisaient richement bien dans le paysage. Je revois ses airs de tourterelle, ses joues plus belles que de la montreuil, et ses manières de me faire de l'œil comme une personne naturelle. Ses mirettes bleues comme un beau jour, sa petite gueule encore framboisée, et ses nichons gonflés d'amour qui étaient pas prêts d'être épuisés. Je revois le décor, la table servie, ma femme, la verdure et le ciel bleu, un rêve comme ça, vrai nom de Dieu, ça devrait bien durer toute la vie. Or, j'étais tellement convaincu que ce que je raconte était vécu, que je me rappelais plus le diable m'emporte, que je le vivais sous un grand port, et je me rappelais pas davantage, au cours de cette fête azurée, d'avoir avant mon mariage, toujours moisi dans la purée. Les vieux carcans qui jamais se plaignent, doivent comme ça n'avoir des rêveries, ou ce qui cavalent dans les prairies, comme autant qu'ils étaient poulains. Venait le soir, Lampion feste un nouveau, puis, saoulé d'un bonheur immense, chacun y allait de sa romance, on gueulait comme des petits oiseaux. Enfin, ça venait l'heure la plus tendre, après l'enlèvement en carriole, la minute où ce que le plus mariole doit pas toujours savoir s'y prendre. Dans un carré sourd et fleuri, dans le silence et la tapisserie, près d'un chouette plumard à dentelle, engageant à la bagatelle, je prenais ma femme et je la serrais. Pour l'enfant seul obligatoire, comme dans le chromo excitatoire, où deux poireaux se guignent de près. Près, oh si près de ma petite bourgeoise, qu'il me semble que je flaire encore l'odeur de giroflée ou de framboise, que t'es les bouffées de sa pudeur. J'y jasais ma perle, ma pensée, mon lilas tremblant, mon lilas, ma petite maman rosée, te voilà enfin, te voilà. Quand j'étais seul, quand j'étais nu, crevant, crevé, sans feu ni lieu, quasi à poil, craintif, pouilleux, où étais-tu, que faisais-tu? Oh, que de chagrin, que de jours mauvais, sans carre, sans béco, sans asile, que de goujats cruels, d'imbéciles, si tu savais, si tu savais. Mais à présent, tout ça est loin, voici mon cœur qui chante et pleure, viens-t'en vite, au dodo, ma fleur, vrai, c'est pas trop tôt que j'aille un coin. Oh, le poivrou, là, le sang pro-bloc, vous ne feriez pas mieux de travailler, au lieu d'être là, bafouillé, foutez-moi le camp, ou gare le bloc. Non. Toute ma vie, je me rappellerai la gueule de cochon malhonnête qui se permettait de m'interpeller parce que j'y bouchais sa sonnette. Alors, comme je leur luquais de travers, il a sorti trois revolvers, deux canifs et son trousseau de clés. Et il s'en foutu à beugler. Au secours, à moi, à l'aide, maman, on me ratibrase, on me saigne, on me viole. N'importe quoi qui vienne, les agents, plus souvent qu'on verrait leur fiole. Et moi, que j'allais peut-être sauter et créer un beau fait divers, mal réveillé de mon songe d'été, je me suis en sauvé dans l'hiver.
Radio Libertaire.
Chronique syndicale.
Philanthropie Loury et Charpentier.
89.4.
Sarah Almatari.
Radio de la Fédération anarchiste. Donc on a entendu Rictus. Et tu disais, enfin tu nous disais hors antenne, que c'était un enregistrement original. Ce qui
c'est extrêmement
fait...
précieux ouais, de pouvoir entendre la voix de Rictus.
Tu peux peut-être préciser les années un peu.
Oui, son phrasé est très particulier. Alors Jean Rictus, c'est un pseudo qui est tiré de François Villon, un poète argotier lui aussi du Moyen-Âge. Et Rictus, son vrai nom, c'est Gabriel Randon de Saint-Amand. Il est né en 1867 et il est mort en 1933.
Et un Rictus, c'est un... sourire un peu douloureux.
Exactement. Tu as tout résumé là du ton et de la personnalité de Jean Rictus, qui va fréquenter les milieux bohèmes du cabaret du Chat Noir à Montmartre à la fin du 19e siècle, où on trouve à la fois des artistes et des écrivains, mais aussi un certain nombre de bourgeois et de mondains qui sont venus s'encanailler. Et ça, c'est important de le dire parce que faut savoir que le public de ces écrivains et poètes argotiers n'est pas qu'un public populaire. De toute façon, le populo, il travaille, hein, il n'a pas forcément le temps, même s'il va au bar de temps en temps, il n'a pas forcément le temps en fait, d'aller écouter, déclamer de la poésie. Là, on a entendu Crève-Cœur, qui fait partie de la production tardive de Rictus. Alors, il faut savoir que Rictus, il va mal tourner, il va finir nationaliste, se convertir à l'Union Sacrée en 14, comme d'autres. L'extrait est particulièrement intéressant parce qu'on voit comment il travaille un contraste de ton et de registre, et un contraste entre une poésie qui se veut populaire et une poésie qui prend ses distances avec une forme de lyrisme un peu ancien. Il y a tout cet épisode amoureux, etc., où la femme est décrite en des termes qui peuvent rappeler la grande tradition de Ronsard, par exemple. Mais tous les poètes argotiers...
Oui, sur l'imagerie.
Ouais, en fait, ils rejettent...
Oui. La fameuse rose qui, un jour, se fane.
Exactement. Et les poètes argotiers, en fait, rendent hommage à cette tradition-là, mais ils prennent leur distance. Ils sont, disons, plutôt du côté de Villon, que j'ai déjà cité, ou de Rabelais. Que de Ronsard.
Oui, parce que Rabelais, il y a de la langue aussi.
Rabelais, c'est une grosse référence pour Céline, par exemple, qui écrit une série de textes qui sont des textes pamphlétaires, comme ceux qui pratiquent, où il dit que Rabelais, il a manqué son coup. Ce qui veut dire, c'est que Rabelais a été, pour lui, vaincu par l'académisme et par la langue, notamment de quelqu'un qui s'appelle Amyot, A-M-Y-O-T. Évidemment, Céline se place résolument du côté de Rabelais contre cette langue académique. Mais il y a des effets de posture chez lui.
Voilà. Il se place du côté de Rabelais dans la langue, mais dans l'idéologie, pas du tout, parce que Rabelais était sans doute beaucoup plus progressiste que ne le fut Céline, surtout pour le XVIe siècle.
Oui, c'est clair, ce sont des questions hyper complexes, le positionnement de Céline, mais je renvoie les auditeurs au bon livre d'Yves Pagès sur les fictions politiques de Louis-Ferdinand Céline, et surtout sur son inspiration anarchiste. On peut dire qu'il a beaucoup pompé, notamment dans Le Père Pouget, Le Père Pénard,
Émile Pouget,
oui, tu vois, joli lapsus. Le journal espatrouillant de Pouget.
Voilà, donc,
à partir de 1889.
Son Pouget, c'était un des animateurs de la CGT, de la première CGT révolutionnaire.
Quand même. Absolument.
Pas qu'un gargotier ou qu'un un argotier. Mm. Voilà. Tu parlais du chat noir, et il y a un autre personnage qui va fréquenter le chat noir, c'est Couté. Est-ce que Couté, on le rentre dans...
c'est la poésie populaire. C'est une figure très, très importante de chansonnier populaire, Gaston Couté. C'est tout ce milieu qui tourne autour de Solis, etc. On le connaît aujourd'hui parce qu'il y a le célèbre tableau de Toulouse-Lautrec où on voit Aristide Briand avec une écharpe rouge. C'est un tableau de 1892, en fait, qui est partout, en fait, à Montmartre, sur les mugs pour les touristes. C'est devenu une image un peu typique de ce Paris, fin de siècle et belle époque.
Mais là, on vient de parler de Jean Rictus. Mais lui, il reprenait où son vocabulaire? Parce que tu parlais justement que les prolos, ils n'allaient pas forcément l'écouter là-bas. Donc, il allait... Parce que là, j'ai l'impression qu'il a servi de transfert, pas forcément de créateur.
Ouais.
Qu'il a servi de prendre... dans son milieu, d'en faire quelque chose, il le transmet à d'autres.
Ouais, c'est exactement ça, c'est tout à fait important ce que tu dis, c'est-à-dire que beaucoup des argotiers n'ont pas appris l'argot dans leur prime jeunesse. Certains ont connu des galères.
Écoutez, c'est plutôt un milieu petite bourgeoisie de province, quoi.
C'est ça, parfois c'est des milieux qui sont un peu ruraux, mais qui sont quand même relativement privilégiés par rapport à d'autres. Alors, Rictus, il a écrit une autobiographie fil de fer, parce qu'il a quand même connu la faim. En gros, des gens comme Aristide Briand, par exemple, en fait, c'est des gens qui viennent de milieux plutôt bourgeois. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils s'encanaillent, mais ils vont devenir eux-mêmes des passeurs de culture populaire. Et d'ailleurs, les spécialistes aujourd'hui de l'argot distinguent ce qu'ils appellent les auto-argotiers, c'est-à-dire les gens qui parlent argot
dans leur
enfance. Alors, ça peut être le cas d'un poulailler, par exemple, qui ont une imprégnation directe, et ceux qui apprennent l'argot, ensuite, aussi de manière livresque, en passant par des dictionnaires, etc. Alors moi, je ne jette pas du tout la pierre, en fait. Hein. Je ne pense pas qu'il y en ait qui soit plus...
Et puis tu vas avoir du mal à ne pas faire autrement de ne pas jeter la pierre.
Non, mais si
toi, tu sers de passeur.
C'est sûr. Et puis, non, mais si tu veux, la question de l'authenticité, c'est de manière générale, la question de la pureté, pureté militante, pureté révolutionnaire, etc., m'intéresse pas trop, en fait. Je pense que ça n'existe pas trop.
Ce qui est important... C'est même dangereux.
La pureté est dangereuse, ça, voilà. C'est une certitude.
Ce qui est important, en fait, c'est c'est le résultat. Mais c'est aussi intéressant de revenir sur les apprentissages des gens, enfin de montrer que bah, les choses ne sont pas innées, quoi. Ça s'apprend, ça peut s'apprendre par sociabilité, imprégnation, ça peut s'apprendre aussi dans les livres. C'est le cas de Queneau, qui dit très clairement que quand il est parti faire son service militaire en Algérie, en fait, quelqu'un lui dit « t'enlèves tes pompes », et il n'a pas compris. Parce que ça, voilà, dans son milieu, en fait, on n'utilisait pas ce mot qui aujourd'hui est complètement passé dans le langage courant. Mais c'est aussi le cas de Céline. Céline, il faut croire qu'il est d'en bas, que voilà, il a tété l'argot avec le lait de sa mère. Pas du tout. On a des témoignages encore des archivinats de son ami Jean-Paul, qui lui fréquentait Montmartre, a été était argotier et qui dit quand j'ai connu Céline, il captait rien l'argot.
Mais cela dit, la récupération des classes aisées sur des éléments du populaire, c'est pas que dans la langue, hein, c'est dans beaucoup de choses. Hein.
Ouais, moi, ça fait penser à Lautrec aussi. Il y a un peu de ça aussi. Ouais. Un grand aristo qui s'encanaille dans les cabarets parisiens, et qui laisse une œuvre absolument magnifique et des représentations populaires plutôt sympathiques. Quoi.
Ah ouais. Bon, je ne vous parlerai pas de mes collègues universitaires qui se baladent avec l'équipe, bien en vue, dans leur poche quand ils prennent le métro.
Ouais. C'est grave ça, par contre. Je propose qu'on continue à écouter des petits morceaux.
C'est volontiers.
Vas-y.
Je veux, on va vers mi vina vin, si vira vin, votre beau buvus de la vallée vigne VCV. Je veux pas pour vers celui, on va jouer un homme avec un vin long, vont coup vous, et vers un chèvre pour vous, on va tout vous rêver par vers une fille vicevelle, au lieu de la revue barbare. Tout vous t'a beaucoup, et vilain va terre vers pévé la vaçon, me voise voisin, hein, on va prévêt en vendant qui vit le ma chère véché sur vers les vestes piévées. Bon, oui. Et vila va bavard de vanavar à 20 pivis devant mon vin, la vête divisque visibion. Pour vers sauvage, je vais t'aider si vous revenez, plavasse au vol, il vibre en vain. De vœux, je vais revenir plus vite à vers, je vais le voir, revenir vivi. De vos vents, voilà, bagavar, c'est mal, la base, je vais revenir. On va grand vent de vin converser vers sa vassibion, avec un vacavam, un verre à vain de vœux. Qui vit lui, vit divisé, vêt de vœux, divi, mi, vini, 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 vini.
Libertaire.
89.4.
La radio de la Fédération anarchiste.
Les chroniques syndicales et...
La philanthropie, l'ouvrier charpentier.
Et avec Sarah...
Almatari.
Autour de la question argotique.
Alors justement, alors avant qu'on passe... C'était Queneau, exercice de style, qui est une merveille du genre quand même, parce que ça demande de la création à tous les styles de toute façon, donc ça c'est pas mal. Mais tu utilises parfois le langage de l'argot et le langage populaire. C'est vraiment la même chose, c'est une photocopie, ou c'est différent, ou c'est plus profond dans l'un, moins profond, je ne sais pas.
Ou peut-être l'argot est un des langages populaires.
Elle va nous répondre, hein. Ouais, elle est là pour ça. Hein.
Avant de vous répondre, je voudrais réagir quand même à l'archive sonore qu'on a entendue, parce que tout à l'heure je disais que c'était une gageure d'entendre Akhenaton parler l'argot du boucher. Alors là, on a une prouesse encore plus spectaculaire, si j'ose dire, avec cet enregistrement des frères Jacques, qui nous lit le passage des exercices de style de Queneau en javanais. Il y a deux... des exercices de style dans le bouquin qui sont en argot. Un est en argot du boucher et l'autre est en javanais. Alors c'est hyper intéressant parce que c'est 1946, mais ça commençait à être publié en fait pendant la guerre dans la presse, et enfin pendant la guerre ou juste après la guerre dans la presse, et ensuite ça va carrément inspirer Queneau, qui va utiliser aussi dans ses romans, dans ses fictions, et notamment dans Asie dans le métro, beaucoup d'argot. Alors sur la question de la frontière entre argot et langage populaire, elle est très 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 difficile à définir. Je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission en fait qu'on avait du mal à définir l'argot. En fait il y a une porosité, tout ça est très très perméable, au point qu'on ne peut pas en fait dessiner de frontières nettes entre ce qui est l'argot et le langage populaire. Ce qui est clair, c'est que l'argot fait partie du langage populaire. Mais alors dire quel mot relève du langage populaire et quel mot relève de l'argot, c'est très difficile, parce que dans le langage populaire, il y a des phénomènes d'élision. Par exemple, on va faire sauter des E, ce qu'on appelle le E caduc. Il y a des toutes sortes en fait de phénomènes d'oralisation. Par exemple, la négation, là, le ne pas, on va dire je peux pas. On fait sauter le nœud, etc.
On fait même sauter la négation.
Ouais.
Parce que le pas, c'était pas un élément négatif, c'était simplement je ne peux pas marcher, quoi. Et c'est la négation qui saute, le nez latin, quoi.
Exactement, c'est le nez latin qui tombe, qui est cassé, d'une certaine manière. On casse le nez du latin.
C'est pirouette cacahuète qui s'est cassé le nez.
Non, continue.
Oui, non, bah, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que, voilà, c'est intéressant sur la question des circulations et de l'impossibilité à définir. Voilà, il y a quelque chose d'indéfinissable que je trouve très séduisant.
Alors, ce qui est pas mal, bon, c'est vrai que les frères Jacques l'ont pris, mais quand il a été écrit, là, on est passé par quelque chose de technique automatiquement. C'est-à-dire que Queneau, il parlait pas javanais, hein, c'était, il avait entendu, il y avait des sonorités, il y avait tout un tas de trucs. Ouais. Mais là, on passe d'un truc qui est quand même très oral, l'argot c'est quand même oral, à quelque chose d'écrit.
Ouais.
Et donc ça veut dire que c'est une récupération pour, et ça fait retransformation de toute façon. Parce que je suis pas sûr que tout l'argot puisse vraiment s'écrire très clairement. S'il y a plein de sons, bon, on peut faire quelque chose, mais on ne peut pas faire tout, quoi.
Bah, ce que tu dis est capital. C'est-à-dire que c'est toujours une retranscription à partir du moment où tu as passage à l'écrit. Cette reconstitution, elle n'est pas figée. Et c'est intéressant de voir si, par exemple, tu prends Poulaille. Tu regardes Poulaille, tu verras qu'il y a des mots qui sont d'argot ou qui sont de français oralisé qui va retranscrire deux fois avec une graphie différente. Ce n'est pas qu'il n'a pas fait attention. C'est que, justement, il essaie de rendre, par ces petites variations, la variabilité des parlers. Parce que bah, quand on discute, bah, y a des fois où on prononce les choses d'une manière différente. Et ça me paraît hyper intéressant de se rappeler que de toute façon, c'est toujours une construction. L'argot à l'écrit, c'est toujours une construction. Oui. Et on revient à cette question de la pureté, en fait. Il n'y a pas de pureté. À partir du moment en fait, où c'est mis à l'écrit, c'est reconstruit par les auteurs qui vont développer toutes sortes en fait, de stratégies qui peuvent être des stratégies stylistiques, mais qui peuvent être aussi des stratégies idéologiques. Je vais te donner un exemple de stratégie idéologique qui n'est pas le fait d'un grand auteur. Et j'hésite presque à prononcer son nom sur les ondes de Radio Libertaire, mais je vais le faire quand même. Vous vous rappelez, en 2018, quand Macron avait parlé d'un pognon de dingue, ça avait fait une courte vidéo qui était devenue virale et dont on avait vite compris qu'en réalité, elle était pilotée par ses services de communication. Pour se donner un style. C'est-à-dire le président en bras de chemise, dans une réunion qui était censée être improvisée, parle comme monsieur et madame tout le monde. Mais là, on a un exemple de stratégie. Et ce genre de stratégie-là, il peut être tout aussi bien utilisé, mobilisé par un écrivain comme Louis-Ferdinand Céline pour se donner une image de populo. Ouais,
et Macron, c'est tout à fait démagogique.
Mais oui, c'est...
dire.
Oui, alors... Enfin, chez Macron, c'est évident, mais chez Céline, il y a aussi des effets de posture, parce que Céline est médecin. Il a certes passé le doctorat et le baccalauréat plutôt assez tardivement, parce qu'il a fait la guerre et qu'il a bénéficié en fait d'une sorte de dérogation pour passer le baccalauréat sur un programme restreint. Mais ensuite, il est quand même devenu docteur au sens du doctorat, ouais. Et ensuite médecin. Alors médecin des pauvres, etc. D'ailleurs, j'imagine que dans son cabinet, que ce soit à Clichy ou ensuite en banlieue, il a dû aussi s'imprimer de l'argot, parce que un certain nombre de patients devaient lui parler dans une langue qui était à minima une langue populaire. Donc ça, c'est intéressant aussi comme vivier possible.
Oui. Sur la question de la variabilité, sur laquelle je reviendrai bien, on trouve ça aussi chez Rabelais, quoi. Quand on lit Rabelais, on voit que d'une ligne à l'autre, il écrit le même mot avec deux orthographes. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que ça renvoyait à deux prononciations, comme tu le disais pour je ne sais plus qui d'ailleurs, ou est-ce que c'est simplement parce que l'orthographe à l'époque n'était pas fixée, que l'Académie française n'avait pas commencé à nous casser les bonbons?
Évidemment, et puis aussi le fait que... Tu as tout à fait raison. C'est que la fixation en fait de la langue française est tardive. C'est au moins, je dirais, le 16e avec l'édit de Védard-Cotteret, etc. Et puis ensuite, il y a la question aussi des imprimeurs. Alors, moi, je suis moins spécialiste des âges classiques, mais... je crois que toutes ces questions d'orthographe étaient fixées par les imprimeurs pendant assez longtemps. Ils ne dépendaient pas des auteurs.
Pas seulement, c'est aussi quand les intellectuels perdent le latin. Il faut compliquer la langue pour qu'on garde une langue d'intellectuel par rapport à cette langue populaire. Quoi.
Exactement.
Langue de classe.
Là, Elia Véron, notamment, a écrit des choses très intéressantes sur le Y. Comment on va rajouter des Y pour faire grec, ouais. Entre guillemets, pour donner une sorte de noblesse et d'ancienneté aux Français, alors qu'ils ne sont pas du tout justifiés par l'étymologie et ils ont été ajoutés.
Pour chevaux, cavales, c'est tout ça. Quoi.
Oui, ou des PH pour faire F vont être ajoutés artificiellement.
Mmh. Je voulais qu'il parle un peu du patois. Parce que le patois, il est aussi oral.
Ouais.
Et est-ce qu'on a des similitudes de patois argotique? Parce que ça devient là... tu peux aller à une époque dans un lieu où là, tu ne comprends plus rien. Entre l'argot et le patois, tu es complètement... Mais le patois, c'est aussi très oral.
Bah complètement. Alors moi, c'est une autre de mes passions, même si je ne suis pas non plus spécialiste. En fait, je suis spécialiste de rien, hein, faut que les auditeurs le comprennent. Mais je préfère parler de langue dialectale ou de langue régionale que patois, parce que le mot de patois, si tu veux, il a pris parfois dans certaines bouches une petite nuance négative. Mmh. Alors, ce qu'on peut commencer par dire, et j'en avais un petit peu parlé à propos de l'argot des bouchers, c'est que tu as des argots régionaux, tu as des argots locaux. Il y a un argot à Marseille ou dans le sud qui n'est certainement pas le même qu'en pays ch'ti ou en pays picard. Voilà, et j'imagine qu'il y a aussi en Bretagne, etc., des effets de circulation entre des variantes régionales de certains mots et puis l'argot à proprement parler. Une chose qui peut être intéressante aussi à évoquer, c'est que quand on traduit en français des ouvrages étrangers où il y a de l'argot, parfois pour bien marquer le décalage entre deux langues, on va choisir des mots qui viennent de lexiques régionaux. Alors du coup, je sais pas, tu vas lire, je te dis n'importe quoi, mais c'est un exemple comme ça, tu vas lire, je sais pas, un roman noir américain avec des mots afro-américains, et ça va être traduit par des mots marseillais ou de patois berrichon ou des mots canadiens aussi. Voilà, pour bien marquer en fait le contraste, avec un petit effet d'absurdité quand même en termes culturels, de se retrouver comme ça, d'un côté tu vois c'est Chicago qui est décrit, puis de l'autre en fait on va utiliser à Limoges oui, ou à Marseille dans les quartiers nord.
Ouais. Est-ce que tu parles de cela, est-ce que toutes les langues ont des argots?
Oui. A priori, oui, je te dirais ça spontanément, toutes les langues ont des argots.
Que ce soit le cantonais ou, on le sait pour les anglais avec le cockney, toutes choses comme ça.
Je suis pas spécialiste de toutes les langues, mais ce qu'on peut supposer, c'est que cette fonction cryptique, elle a suscité des tentations partout. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est un exemple que j'avais donné à mes étudiants. Il y a dans la variété style de musique en fait qui s'est beaucoup beaucoup diffusé, c'est le reggaeton. Le reggaeton en fait, c'est des musiques qui viennent plutôt de Saint-Domingue, Porto Rico, etc. En transitant par les États-Unis, où t'as beaucoup 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 d'argot sud-américain qui passe ainsi dans la langue. Qui perd sa fonction cryptique. Si bien que, en Espagne, dans la péninsule, on va pouvoir utiliser ce genre de mots qui va avoir aussi des créations lexicales. J'en donne un exemple peut-être. Certains connaissent peut-être la Rosalía, une chanteuse barcelonaise. Et elle a fait quelques morceaux de reggaeton et elle utilise le mot racineta que je comprenais pas et que beaucoup d'autres n'ont pas dû comprendre. C'est une création, ça vient du mot racing, c'est celle qui fait la course. Et donc voilà, ça connote une forme de vitesse.
Oui, et puis là j'ai lu quelques bricoles, on a repéré quand même de l'argot dans le goulag. C'est-à-dire dans le goulag, ou dans les prisons, quelque chose qui est assez assez typique, c'est que dans les prisons, il y a la langue qui est de l'argot, puisque c'est la langue déformée, simplement pour pas être connue. Dans les goulags, c'était pas, ça leur permettait de parler politique en pensant qu'on parlait tomates ou carottes.
Exactement, et il faut dire que les premiers dictionnaires d'argot, ça c'est hyper intéressant, sont le fait de policiers, souvent de commissaires ou de chiens de commissaires, hein, puisqu'ils envoyaient en fait des enquêteurs dans les bas-fonds.
Des indiquants.
Des indiques, ouais, pour collecter ces mots. Et une petite chose aussi qui est intéressante et que j'ai découverte, le premier dictionnaire français est un dictionnaire d'argot. Ça mérite d'être souligné quand même. Et tu parlais en fait des prisons. Bien sûr, il y a un argot des prisons. Mais il y a sûrement un argot aussi des matons.
Matons, c'est peut-être déjà un terme argotique.
Absolument.
C'est parce qu'ils regardent à travers l'œil pour surveiller. Ouais,
absolument.
Ils matent, quoi.
Absolument.
On se met un petit moment.
2008.
C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond d'Orbonne. Il plane à 10 000 et tu sens le malaise en lui. Son blaze, c'est Charbonvary. Il rencontre une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle le héros. C'est Madame Bovary. Donc là, t'as résolu la première énigme du père Fouras. Du père Fouras. À savoir, qui c'est Madame Bovary? Eh bien, c'est elle. Ils se marient, et puis ils vont crécher dans un bled pérave de Normandie. Emma, elle se fait chier. Donc elle commence à toucher la nouille de quelques coms qui passent. et elle se fait raccommoder la crinoline par des bad boys dans des calèches. Ça, c'est votre zizi bâton, hein? Emma, elle kiffe le swag. Alors, elle claque son bif pour des petites loup-boutins easy et des bananes Hermès. Enfin, des trucs de luxe, quoi. Le bail, c'est que Charbonvary, il n'a pas une thune. Alors Emma, elle est obligée de faire des emprunts au bonhomme de cet élème. Sauf qu'après, ils sont endettés. Mais Charbonvary, il sait pas. Mais Emma, elle s'en met plein les fouilles. Lol, la salope. À un moment, elle se fait têche par son chum et elle se réveille à Walpé dans un champ de blé. Du coup, elle est trop déprimée. Elle a le somme de la vie. Elle se suicide. Et du coup, Charbonvary est tellement gâché, il crève aussi. Il reste juste la gosse qui fait du tricot. Bref, c'est une putain de vie de merde qui commence. C'est l'amour et dans le bruit au Globe Normandie. C'est le sofa à quoi du terrain miné. C'est Gigolo et Patatalo. C'est Madame Bovary. Garde à pêche.
Radio Libertaire.
89.4.
Chronique syndicale et...
La philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Radio de la Fédération anarchiste.
Anarchiste, oui, je suis d'accord. Bon, alors on va avec passer Sarah. La parole à Sarah Almatari autour de l'Angora, le Pato, plein de trucs.
Et puis un petit mot peut-être sur cette interprétation un peu particulière de Madame Bovary quand même, qui est un grand classique de la littérature.
On n'entend que des morceaux énormes, que des extraits énormes. Là, c'était un extrait des Bolos, des Belles Lettres, qui est un programme qui a été diffusé sur France 5 et sur YouTube à partir de 2016. Et qui est à l'origine, en fait, une forme de courte chronique écrite par Quentin Leclerc et Michel Pimpan. Et là, c'est Jean Rochefort qui interprète de manière assez merveilleuse cette réécriture, ce pitch de Madame Bovary à destination d'un public jeune. Et ce qui est très intéressant, c'est le contraste générationnel sur lequel il joue. D'un côté, lui, figure importante du théâtre et du cinéma français, qui a un certain âge au moment où il enregistre, et de l'autre, ce langage fleuri qui inclut un certain nombre de mots d'argot récents et qui permet aux lycéens de réviser d'une manière alternative, je dirais, leur bac de français.
C'est comme ça qu'on passe le bac ?
Aujourd'hui, il paraît que c'est comme ça qu'on le passe.
Et je vais te dire, il y en a qui pourraient avoir des problèmes, parce que comme l'argot évolue, ils vont se retrouver avec quelques années de retard. Hein. C'est pas si évident que ça. Alors, c'est assez intéressant, parce qu'en fin de compte, de l'argot, on va en trouver quand même dans beaucoup de romans classiques. Parce que tu fais toute une citation de romans où l'argot, les romanciers, ils l'utilisent. Et ils l'utilisent pas simplement pour faire une caricature, mais ça passe dans l'écriture.
Et oui, on l'oublie parfois, mais il y a énormément d'argot chez Victor Hugo, par exemple. D'ailleurs, Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, qui doit dater de 1831, j'ai pas vérifié, mais je cite de mémoire, décrit ce qu'il appelle le royaume d'argot. Alors, qu'est-ce que le royaume d'argot ? C'est un royaume de la pègre, un royaume des gueux, où on parle ce que Villon décrivait comme le langage des coquillards, hein, c'est-à-dire les truands de la cour des miracles.
Et justement, j'ai cherché la coquille, ça vient d'où ce truc ?
Ouais, en fait,
Saint-Jacques de Compostelle.
Mais non, en fait, on croit que ça vient de là. On croit que ça vient de... petits truands qui se faisaient passer pour des pèlerins pour voler les gens ou leur soutirer de l'argent. En réalité, l'origine est assez incertaine, mais ça a dû jouer, et en tout cas ça joue dans l'imaginaire. Voilà. Donc Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, mais aussi dans Le dernier jour d'un condamné, où on a cet argot des prisons, cet argot des préaux que tu évoquais, qui va inspirer Balzac. Tous les deux, ils sont en dialogue constant avec Eugène Sue, qui va écrire le grand roman de l'argot 19e, à savoir Les Mystères de Paris, qui va paraître en feuilleton dans la presse. Et on a un personnage qui s'appelle le Chourineur. Le Chourineur, ça vient du mot Surin, le couteau, voilà, donc c'est...
Oui, mais c'est pareil, il passait couteau à surin, déjà il s'est passé quelque chose. Ouais. C'était un vocabulaire professionnel.
Écoute, je crois que ça vient du manouche, surin, mais faudrait vérifier.
Ouais. Sachant que pour Victor Hugo, on a aussi de belles extractions du langage populaire avec Gavroche dans les Misérables. Ouais. Alors, on n'est pas dans vraiment de l'argot, mais on est dans la langue populaire.
Quoi. Bah, elle travaille beaucoup en fait cette question-là. Au départ, il est un petit peu en surplomb. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup des écrivains du 19e siècle. C'est-à-dire qu'ils se posent un certain nombre de questions morales et ils prennent énormément de précautions. À l'heure d'introduire dans leur roman ces mots d'en bas qu'ils considèrent comme des mots sales. Et puis Victor Hugo va évoluer. Bah, vous savez qu'il a beaucoup évolué politiquement, hein, puisqu'il est passé de royaliste à républicain, enfin Bontain. Le républicain qu'on connaît. Il évolue, il se dit finalement, bah non, en fait, le problème, il n'est pas moral. En fait, l'argot, c'est la langue de la misère. Voilà.
Il y en a d'autres qui ont utilisé ça, parce qu'en fin de compte, on a l'impression que l'argot, c'est d'abord quelque chose qui est daté, et que franchement, les écrivains dits classiques, traditionnels, ou des choses dans ce genre-là, c'était pas eux, ils utilisaient une langue beaucoup plus jolie, des trucs, alors que c'est réutilisé quand même.
Ouais. Et puis l'argot n'est pas daté, parce qu'il y a toujours de l'argot, et il évolue en permanence.
Donc, oui, et puis c'est de l'argot qui reprend aussi de l'argot, ou ouais. Qui... Ouais. Parce que la langue évolue. Alors justement, là, on avait sur le côté, comment dire, métier. Maintenant, c'est beaucoup plus sur le côté sociologique. Parce qu'en fin de compte, de ce que j'ai compris, c'est qu'avant, l'argot en 1, c'était l'origine métier de l'origine sociologique. Et on passe à l'inverse, où maintenant, c'est beaucoup plus l'origine sociologique. C'est dû à quoi ?
Oui, mais alors après, des jargons professionnels, ça existe toujours. Mais ce qui est intéressant,
oui,
c'est...
Oui, mais tu parles bien de jargon professionnel.
C'est le mot a changé, si tu veux. Mais si tu prends argot au sens large, ça peut inclure les jargons. Mais quand tu vas voir ton médecin, il peut te parler de trois manières, en fait. Il peut te décrire les symptômes que tu as dans un langage extrêmement technique que tu vas avoir du mal à comprendre. Et puis, il peut aussi te parler d'une manière, en fait, beaucoup plus compréhensible, voire complètement, je dirais, inoffensive du point de vue linguistique.
Alors pourquoi c'est passé beaucoup plus sociologique par rapport aux professionnels ? C'est l'immigration, c'est les langues qui sont arrivées qui commencent à se mélanger, c'est quoi ?
Bah, y a surtout,
par exemple, si on prend Marseille, pareil, qui est quand même un nœud d'immigration, avec des langues différentes qui arrivent et qui doivent trouver une espèce de tronc commun, quoi.
Sans doute que le monde du travail a changé aussi, si tu veux, avec la disparition des corporations, qui étaient quand même des groupes assez fermés, où il y avait des phénomènes de reconnaissance. Tu prends les compagnons, par exemple, dans le monde des compagnons, on parlait l'argot et on le colportait aussi à travers la France, à l'époque du Tour de France. Avec la disparition des corporations, je pense qu'il y a eu une sorte d'amenuissement de ces parlers-là. Donc ça, c'est un premier élément.
Et puis aussi la tertiarisation de la société. Aussi,
la managérisation même de la société. Qui fait qu'il y a des... Ah, maintenant, c'est les process, c'est tout ce vocabulaire... Voilà, c'est tout ce vocabulaire qui est en partie issu de l'anglais qui s'impose partout, quel que soit le métier. Il y a une sorte de nivellement, me semble-t-il, des langages professionnels.
Oui, sachant que l'école blanche s'autorise peut-être plus à parler comme l'école bleue le faisait, ou comme les terrassiers de Poulaille, justement, s'autorisaient à le faire.
Après, j'imagine que quand on va dans les ateliers, ou même sur les grandes plateformes ou à la chaîne, il reste en fait des spécificités.
Il se crée des vocabulaires, de toute façon, qui sont peut-être des raccourcis ou des choses mal assimilées dans le vocabulaire.
Ouais. Donc, dans les banlieues, sociologiquement, ils reprennent aussi beaucoup de choses de l'argot ancien. Ils vont parler de thunes, ils vont parler de pompes, comme tu le disais tout à l'heure. Mmh. Et donc, ils se sont aussi réappropriés cet argot du début du XXe siècle. Quoi.
Oui, et puis il y a un mélange qui s'opère, tu vois, par exemple, pour désigner Paris, on va parler de...
Paname.
On va parler de Paname, un peu
Paname,
moins...
Paname, ça fait vieux.
Un peu. On va parler de Ripa, on entend aussi parler de Babylone chez les rappeurs, par exemple. Et ça, c'est déjà dans la poésie du 19e et chez les chansonniers du 19e.
Un petit morceau.
Sans vouloir importuner madame, je crois qu'il est temps de mettre les bois avant que les ardures appliquent.
Éléphant, je me demande si t'en as dans le cigare. C'est pas avec tes congés payés qu'on va pouvoir se carapanter et s'offrir la croisière de la luxe.
Ah oui. Madame joue les sceptiques. Elle s'imagine peut-être que c'est du mou pour le chat que je trimballe depuis ce matin.
Oh, bon, toi alors ?
J'aurais bien joué les gaines petits, les plus la sueur, mais j'ai pas la vocation.
Excuse pour l'eau, mais cet argent me défrise. Il renifle le malhonnête.
Mais dis donc, la môme, c'est pas le moment de me donner des cours de catéchisme.
Je t'ai toujours dit, le zig. À force de fouiller la merde, tu vas te retrouver avec un crâne de suppositoire.
Allez, on déchaîne.
M'oblige pas, pour l'eau. Question d'éthique, ça m'en dispose.
Mais je vous parlais majoré. Toi donc pas que je t'ai en la peau.
Oui, et dans 5 minutes, c'est bien autre chose que tu pourrais avoir dans la peau.
Vous idéalisez, monsieur le commissaire. C'est pas dans mes ambitions de finir au trou à Fleury Mérogis.
Peut-être, mais il y a de la promotion dans l'air. Tu pourrais finir dans un trou au Père Lachaise.
Gobez pas dans la combine, monsieur le commissaire. Vous voyez bien qu'il prend en voix, il fait dans le ludique.
Toi, la môme, tu ferais mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Alors, monsieur le commissaire, que je suis pas capable de...
Ouh, si. Les marouflards dans ton genre, je les crois capables de tout. Avec ta jactance, tu défroquerais un moine trappiste et tu convertirais une grenouille de bénité au bouddhisme. Parce que c'est avec des excentriques de ton acabit qu'on déclenche les guerres civiles et qu'on est passé de l'âge du lance-pierre à la bombe atomique. Alors ça peut-être temps de réviser ton Larousse, parce que moi j'appelle pas ça capable, mais responsable.
Cherchez pas à m'abuser, monsieur le commissaire, ça pourrait causer des désagréments.
Oh. Allez, Polo, descends ton trapèze et les tourniflards au vert.
Une mouvance de plus et j'attaque le gros œuvre.
Vous voyez bien qu'il conjugue des segments. Si m'asperge, je suis bonne pour le musée d'art moderne.
Je te le répéterai pas deux fois, débraye ton soufflant, je te dévisse pour perpète.
Et ce mornif une bastos dans ma carafe.
Pillé, j'aspine pas dans la pistache.
Et moi je turbine pas dans les roues flaquettes.
Ça va clapoter dans la pendure.
C'est irréversé que le rouvion.
Allez, crapatouille, pas les zanzibars pour le kibus.
Je suis tartouffe les estampés.
Oh, dégobez pas les artichouilles, j'asperge dans la dentelle. Oh ben mince. Il est mort.
Hein?
Il s'est rencardé avec le grand barbu pour le dépôt de bilan.
Radio Libertaire, 89.4.
La radio de la Fédération Anarchiste.
Avec Sarah
Almatari.
Ah, vous nous gâtez. Vous nous gâtez là avec tous ces extraits sonores. Vraiment, on était à Pontreux avec les Inconnus, qui sont quand même très 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 forts. Ils arrivent à rendre ce parler parigot jusque dans les intonations avec des A qui sont.
Ils le jettent comme ça. Hein, il n'y a pas d'hésitation.
Il y a du boulot derrière, je pense. Hein, et il travaille, hein, parce que n'est pas Arletty qui veut. Alors quand même, peut-être un petit mot pour nos amis féministes, une petite dédicace, parce qu'on a quand même été contraints de choisir un certain nombre d'extraits littéraires, etc., qui ne sont pas hyper valorisants pour les femmes. Hein, il faut quand même le dire, il y a quelque chose d'assez viriliste souvent chez les écrivains argotiers. Et par exemple, si, pour parler un petit peu d'Aristide Bruant, un des morceaux les plus célèbres, c'est à Saint-Lazare. C'est une chanson qui a été ensuite interprétée par Barbara, entre autres. Je crois qu'elle a été aussi interprétée par Patachou. Et qui décrit...
On l'écoutera tout à l'heure.
On l'écoutera, ouais. Oui. Alors, je peux juste dire un mot rapide. En fait, c'est une lettre écrite par une prostituée qui se retrouve donc à Saint-Lazare, qui était cet hôpital de femmes. Ouais. Prison-hôpital où beaucoup de prostituées se trouvaient internées, notamment parce qu'elles avaient des maladies vénériennes. Et alors, dans cette chanson qui est assez hallucinante, en fait, de notre point de vue, elle écrit à son souteneur, à son Mac, et elle s'inquiète beaucoup pour lui parce que comment est-ce qu'il va pouvoir vivre maintenant qu'elle est en prison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un trio prostituée, client, Mac, qui est vraiment très très habituel dans cette poésie et cette chanson de la fin du 19e qui était dite dans les cabarets, et qui est une sorte d'inversion du trio mélodramatique bourgeois. Ciel, mon mari. On avait le mari, l'épouse et l'amant.
Dans le placard.
Voilà. Donc ça, c'est très, très marqué. Et ce milieu des Mac, ce milieu avec un M majuscule, est évidemment un milieu où prolifère un certain type d'argot. Et Céline va s'en inspirer dans Guignol's Band, puisqu'il a pu s'en imprégner quand il est parti lui-même à Londres et qu'il a fréquenté ces milieux-là.
Sachant que pour la nouvelle génération des écrivaines femmes, commence à utiliser l'argot quand même.
Ah bah depuis les années 50, ouais. 60, moi celle que j'adore c'est Albertine Sarrazin. Ouais. Et on peut recommander à tous nos auditeurs l'Astragale, la Cabale, voilà enfin une référence féministe.
Je te remercie. oui, donc dans l'extrait qu'on a entendu, c'est vraiment une espèce... Ils ont réussi à prendre un catalogue de vocabulaire, le mettre en scène... Alors bon, ils le mettent aussi en scène physiquement, tourné en noir et blanc, ou des choses dans ce genre-là, mais on sent qu'il n'y a pas de naturel quand même. On sent que ce n'est pas des gens qui sont en train de parler. On sent que là, c'est passé entre autres par l'écrit, je pense. Hein. Je veux dire, c'est au niveau de la prononciation, au niveau de l'enchaînement, on sent que c'est du réchauffé, quoi. C'est pas du vu sur place, comme on a eu tout à l'heure les bouchers, où là, on les entendait bien, parce que il faut les voir, si on est fait dans une boucherie avec le magnétophone à bande et tout, là, c'est une prise. Là, on sent que c'est du remâché, quand même.
On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, sur la reconstruction. La reconstitution, c'est toujours reconstitution. Et c'est intéressant de voir que quand Henri Barbusse, le romancier pacifiste, a publié son grand roman Le Feu, qui est un roman sur la guerre de 14, et lui-même, alors qu'il était déjà âgé et qu'il était pacifiste, a insisté pour aller combattre en 14. Et il est revenu avec ce roman Le Feu, qui va gagner le prix Goncourt en 1916.
Avec un grand roman antimilitariste.
Grand roman antimilitariste qui est truffé de mots d'argot, mais vraiment truffé, et qui va pourtant être critiqué, notamment par quelqu'un qui s'appelle Jean Norton Cru, dont vous connaissez peut-être le grand ouvrage Témoin. Norton Cru va dire que ce roman est complètement artificiel, que dans les tranchées, on ne parlait pas du tout comme ça, et que ce qui prédominait, c'est justement les langues dialectales, hein, les patois dont tu parlais tout à l'heure.
De toute façon, il y avait la tranchée des Bretons, il y avait les tranchées, etc. Hein,
voilà la tranchée des Wolofs.
Oui.
Oui, les tirailleurs maghrébins ou sénégalais. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'argot qui a transité, enfin, de mots étrangers qui ont transité dans l'argot via la Première Guerre mondiale, mais aussi via les bagnes disciplinaires et tout ce qu'on appelait l'argot de caserne. Parce que vous savez qu'à Biribi, au Maghreb, il y avait un certain nombre de circulations qui se faisaient aussi.
Ouais, et donc, Biribi, c'est un cantonnement militaire, disciplinaire, ouais, où les jeunes hommes réfractaires ou déserteurs étaient plus que maltraités.
On leur apprenait la vie.
Enfin, ou la mort.
Ou la mort. Mm. Oui, donc on en était à la reprise.
Et au fait que Jean Norton Cru va dire « Maintenant, c'est complètement artificiel, c'est ridicule. » En fait, Barbusse s'est inspiré des carnets que réalisaient les poilus. Quand ils étaient dans les tranchées, ils écrivaient souvent dans leurs petits carnets. Il a collecté un certain nombre de mots et ensuite, il les a tous mis dans la bouche des mêmes personnages. Ce que voulait dire Norton Cru, c'est qu'en fait, l'usage de l'argot était beaucoup plus ponctuel. C'était quelques mots d'argot dans le parler des poilus. Et dans sa reconstitution, ce que fait Barbusse, c'est qu'il met tous les mots dans la bouche. Et donc, du coup, il y a un effet outrancier, excessif, que dénonce Norton Cru.
Oui, et donc, et là, dans l'extrait qu'on a vu, c'est un peu ça qu'on voit. C'est-à-dire que comme tout est mis comme ça, c'est presque à plat.
Mais c'est ça qui fait le comique aussi. Ah
oui,
pour
bien
nous.
Sûr, ça, c'est le côté comique à côté. Mais sur le côté argot, c'est un peu ça qui fait le truc, quoi. Un petit morceau ? Ouh, mais vas-y.
Non, c'est la question de la densité qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on ne parle pas qu'argot, on parle français avec des mots d'argot, et l'argot fait partie de la langue, en fait, à laquelle il est rattaché. Comme je disais tout à l'heure, c'est un greffon.
C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici, tout le monde est décavé. La braise est rare. Faut 3 mois pour faire un lindé à Saint-Lazare. Vrai te savoir comme ça sans le sou, je me fais une bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigare. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare, va t'en trouver la grande nana, dis que je la prie, casqué pour moi, j'y rendrai ça à ma sortie. Surtout n'y fais pas de boniment pendant que je marre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Et puis mon petit loup, bois pas trop. Tu sais que t'éteignes, et quand t'as un petit coup de sirop, tu fous la beigne. Si tu te faisais coffrer un soir dans une bagarre, y a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Je finis ma lettre en t'embrassant. Adieu mon homme. Bien que tu sois pas très caressant, Je t'adore comme j'adorais le bon Dieu, comme papa quand j'étais petite et que j'allais communier à Sainte Marguerite.
Radio Libertaire.
89.4.
Avec Sarah, puisqu'il nous reste peu de temps, donc on ne fait pas trop de
problèmes. On va prendre Sarah et Matari directement. Allez, vas-y.
Oui, alors là, on a écouté À Saint-Lazare d'Aristide Bruand dans une interprétation de Patachou. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que la prononciation a été légèrement modifiée pour permettre à une chanteuse plus contemporaine, plus proche de nous, en fait, de chanter. C'est intéressant. C'est-à-dire que l'argot, tel qu'il est retranscrit dans le recueil d'Aristide Bruand, devient trop difficile à prononcer au fur et à mesure que le temps passe. Autre chose que je voulais dire, c'est qu'on a une chanson là qui est vraiment pathétique, avec une moralité qui peut paraître un petit peu décalée selon nos critères d'aujourd'hui, puisque on découvre cette prostituée fidèle, travailleuse,
amoureuse,
dévouée, qui a jadis été une petite fille aimante et pieuse et qui se préoccupe moins d'être en prison et d'être malade que de son Mac, qui, dit-elle, n'est pas très caressant.
On est
en plein dans le stéréotype, là, c'est la putain en grand cœur hein, qu'on retrouvera ailleurs au cinéma, dans le western,
oui,
etc.
Oui, puis c'est un peu l'époque de ces chansons de l'époque. Je veux dire, Saint-Lazare, je veux dire, de Rictus, de tous ces... où il y avait une espèce de mythe...
Alors, une dernière question, parce que le temps presse. Est-ce qu'il y a un argot révolutionnaire?
Alors, depuis la Révolution française, au moins, puisque tu sais que la Révolution française a été un formidable laboratoire, elle a voulu changer le monde, elle a voulu changer le langage pour dire aussi les nouvelles réalités.
Voire même changer le calendrier pour qu'on ait moins de jours de repos.
Oui. Tout peut le changer, les départements, etc. Enfin, il y a un souci de rationalisation de la langue qui est hyper fort, qui vient des Jacobins, puisque les Jacobins ont fait... maintenant, on nuance un peu ça, mais ils ont fait la chasse au patois, la chasse aux langues régionales pour unifier le territoire. Et il y a un certain nombre de mots révolutionnaires, il y a des dictionnaires entiers de mots révolutionnaires, et un des mots révolutionnaires qui est très intéressant, c'est terroriste. Ça vient évidemment de la terreur avec un T majuscule. Et cette floraison de néologisme va être dénoncé par les réactionnaires qui font des dictionnaires entiers de mots révolutionnaires. Donc oui, il y a un argot des enragés, un argot révolutionnaire qui va se perpétuer dans les siècles suivants.
Ouais. Reste à faire la révolution, quoi, pour reparler l'argot alors.
C'est ça, on a déjà le vocabulaire, il faut le... on va peut-être s'arrêter là. L'émission d'après, tu pourrais la présenter.
L'émission d'après, ce sont les chroniques syndicales.
Ah, enfin.
Et aujourd'hui, animée par les copains de la CNT, comme bien souvent.
On peut peut-être dire le morceau qu'on va passer, donc c'est les frères Jacques.
Ah
autour
oui.
de l'argent. Et là, c'est intéressant parce qu'on va voir une déclinaison de vocabulaire sur la même chose, l'argent, le fric, le flouze, etc.
Le pèse.
La thune.
Pognon, pom, 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 million, pom, 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 le blé, pom. les pom pom pom, les louis pom pom pom, inouïs pom pom pom, les briques pom pom pom, pratique pom pom pom, affure pom pom pom, carbure pom pom pom, le presse pom pom pom, la presse pom pom pom, le champ pom pom pom, les roues pom pom pom, ferraille pom pom pom, mitraille pom pom pom, bénef pom pom pom, SF pom pom pom, tourlis pom pom pom, bacchiche pom pom pom, les rangs pom pom pom, ma tante ah ah ah, des sous pom pom pom, les clous pom pom pom, liquide pom pom pom, solide ah ah ah, boncier pom pom pom, bretin pom pom pom, tatier pom pom pom, talbin pom pom pom, galette pom pom pom, pépette pom pom pom, fortune pom pom pom, de thune pom pom pom, ressources pom pom pom, la bourse pom pom pom, le nerf pom pom pom, de guerre pom pom pom, finance pom pom pom, balance pom pom pom, le fric pom pom pom, l'agit pom pom pom, l'artiste pom pom, fortissime, l'amour, la gloire.
Thank you.